Lizzie présente L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy, lu par Sylvain Agaès. Pour Amelia Kennedy et pour Grace et Max. Prends garde à ne pas te perdre toi-même en étreignant des ombres. Ésope. Première partie. Chapitre 1. Il était 4 heures du matin. Je n'avais pas fermé l'œil depuis des semaines. Et le bébé criait de nouveau. Bon, il ne m'avait pas réveillé. Quand ses piaillements ont repris, cela faisait déjà longtemps que j'avais les yeux rivés au plafond. Mais j'étais tellement hébété par le manque de sommeil que je me suis senti incapable de sortir du lit. Je suis donc resté là, immobile, tandis que Josh poussait ses tout jeunes poumons vers de nouveaux extrêmes. Ses incessants glapissements ont fini par réveiller Bess. Dans un état semi-comateux, elle m'a envoyé un coup de coude et m'a adressé la parole pour la première fois depuis 2 jours.
« Tu t'en occupes. »
Et elle a roulé sur le côté, en plaquant l'oreiller sur sa tête. J'ai obéi, tel un automate maladroit. Je me suis assis dans le lit, j'ai posé les pieds sur le sol, j'ai tendu la main vers la robe de chambre à rayures jetée sur une chaise, je l'ai enfilée sur mon pyjama assorti, j'ai serré la ceinture avec soin. Je suis allé à la porte que j'ai ouverte. Ma journée avait commencé. Façon de parler, puisque, en réalité, elle ne s'était jamais terminée. La nurserie était juste en face. Jusqu'à la semaine précédente, nous avions gardé Josh dans notre chambre. Contrairement à notre autre fils, âgé de 4 ans, Adam, qui avait fait des nuits complètes sitôt dépassé le seuil fatidique du mois et demi, ce gamin se révélait être un insomniaque chronique, refusant catégoriquement de dormir plus de 2 heures d'affilée. Il se réveillait chaque fois avec des cris perçants à travers lesquels il réclamait notre attention pleine et entière, sans équivoque possible, sur le champ. Dans l'intention de le faire taire 8 bonnes heures, nous avions tout essayé. Le garder éveillé le plus tard possible, le gaver de 2 solides biberons pour décourager une fringale nocturne, lui administrer la dose maximale d'aspirine pour bébé prévue par la posologie. Aucun résultat. Alors, nous nous étions dit qu'il dormirait peut-être mieux tout seul, et nous l'avions transféré dans la nurserie. Peine perdue. Entre 2 crises de hurlement, le répit n'excédait jamais 3 heures. Et pendant les 20 semaines de sa courte existence, il ne nous avait laissé aucune chance de profiter d'une vraie nuit de sommeil, ni à Bess, ni à moi. Ces derniers temps, il m'est arrivé de vouloir me convaincre que cet état d'épuisement continuel, ainsi que nos nerfs en pelote, était la cause principale de notre mésentente. Discorde qui avait tourné au vinaigre 2 jours auparavant lorsque, laissant échapper un venin longtemps accumulé, Bess m'avait traité de type complètement aigri. Comme je n'étais pas prêt à laisser passer de telles insanités, j'avais répliqué en lui annonçant que pour moi, elle était une mégère de banlieue. En guise de rétribution, j'avais eu droit à 48 heures de mutisme absolu. Le mois précédent, elle avait aussi eu recours à ce silence vengeur pendant tout un week-end, après une discussion un peu vive à propos de notre dernier relevé de carte American Express. Et encore 2 mois plus tôt, quand, en pleine montagne russe psychologique de la dépression postnatale, elle m'avait accusé d'être le plus grand nombriliste de l'histoire de l'humanité. Ce n'était donc pas seulement les pleurs de bébé Josh qui me tenaient éveillé toutes les nuits. Il y avait d'autres petits tracas, des tas et des tas de petits tracas. Cette maison, par exemple. J'en étais arrivé à détester notre maison. Non qu'elle fût particulièrement haïssable, la cahute. Au contraire, le genre de demeure classico-banlieusarde dont rêve l'Américain moyen. 2 étages, façade à bardeaux blonds et volets verts dans le style colonial Nouvelle-Angleterre, 4 chambres, vaste cuisine, salle de jeu en sous-sol, 2500 m² de jardin, un garage indépendant de 2 places, prix de vente, 485 000 dollars. Mais, comme ce coin du Connecticut avait sévèrement dégusté pendant la récession, nous avions pu l'avoir pour 413 000 en 1991. L'affaire du siècle, m'avaient certifié à l'époque plusieurs collègues de bureau admiratifs. Pourtant, au moment où j'avais signé les papiers de l'emprunt bancaire avec Bess, je ne cessais de me répéter intérieurement que nous, les humains, sommes vraiment les architectes de notre propre geôle. De même que les autres pièces de la maison, la chambre de Josh n'était que lambris de pin et mobilier amérique des pères fondateurs. Le mouflet dormait, ou plutôt était censé dormir, dans un berceau en acajou daté par les experts d'environ 1782. Il était langé sur une commode en pin provenant d'une ancienne auberge de la bonne vieille ville de York, dans le Maine. Un peu plus grand, il pourrait s'asseoir dans un minuscule rocking chair qui avait accueilli jadis le postérieur de Nathaniel Hawthorne, enfant, ou s'amuser avec une collection de poupées de chiffon qui, à tous les coups, avait dû tenir compagnie à Harriet Beecher Stowe pendant qu'elle écrivait « La case de l'oncle Tom ». Comment je connais toutes ces conneries historiques à propos des meubles de mon gosse? Grâce à Bess, évidemment. 2 ans après notre arrivée de la grande ville, elle avait un jour décidé de se débarrasser de notre mobilier bêtement fonctionnel, scandaleusement moderne, et lancer le nouveau mot d'ordre. Nous aurions un intérieur colonial. Attention, pour elle, cela ne pouvait signifier se rendre au premier magasin Ethan Allen venu et acheter 2 fauteuils Williamsburg copie d'anciens en imitation cuir. Tout, chez nous, allait devoir être estampillé, garantie 100% fédéraliste. Pendant des mois, cette orgie d'authenticité la poussa à écumer le moindre antiquaire jusqu'à New London, en quête du véritable lit shaker, du coffre de pêcheur de baleine bostonien, comme on n'en fait plus, du banc venu d'un temple quaker de Providence. Évidemment, chaque objet devait être accompagné d'un pédigré digne d'intérêt, d'une charge historique. D'après elle, Thomas Jefferson en personne avait sauté l'une de ses maîtresses sur notre divan français. Quant aux 3 broderies typiquement Nouvelle-Angleterre suspendues dans notre salle de bain, elles étaient toutes de la main de la belle-sœur de Daniel Webster. Où était-ce de sa jeune nièce aveugle? Je finissais par m'y perdre, moi. Cette manie de l'authentique prit chez elle les proportions d'une véritable obsession. Coûteuse aussi, puisque cette année-là, toute ma prime de Noël, 7 900 $, y passa. Je ne la détournais pourtant pas de cette débauche d'antiquité, parce qu'elle avait le mérite d'occuper son esprit à un moment où Bess essayait de surmonter la grande déception qui pesait sur son existence. Et pendant une période, en effet, dénicher la moindre vieillerie disponible dans la région lui permit d'oublier son amertume. Le jour vint cependant où elle se lassa de courir les ventes aux enchères et de se lancer dans des recherches frénétiques pour compléter une série de gravures originales d'Audubon. La maison était pleine. C'était un paradis de collectionneurs. Quand nous avions des amis à dîner, Bess pouvait passer des heures à détailler les tribulations d'un bol à raser en porcelaine daté de 1789, qui avait initialement appartenu à un Commodore d'East Sandwich, Massachusetts. Sans qu'elle me l'eût jamais avoué, je savais qu'elle méprisait l'univers dont elle avait réuni fébrilement tous les éléments, qu'elle voyait désormais en lui une simple tactique de diversion destinée à détourner ses pensées de certaines réalités peu agréables à regarder en face. Comme moi, elle en était venue à détester la maison et tout ce qu'elle impliquait.